Chapitre 21. 3 fois 3.
Zizou, Zizou!
Chut! Voyons, Zizou, ça se fait pas d'écouter aux portes!
Chut! Je te dis, Zabi!
Zizou essaya de plaquer davantage son oreille contre la serrure de fer.
Insiste pas, mon petit rat! Les portes sont trop épaisses, on n'entend rien! Je te jure, j'ai déjà essayé plein de fois! Alors laisse le conseil tranquille, il a du boulot, crois-moi. Viens, j'ai un truc à te montrer. Chez les singes, dans la galerie des poussières.
Zabi tira Zizou par la main, qui la suivit avec regret. Ils s'éloignèrent de la porte de la salle du conseil et se retrouvèrent dans le couloir des appartements de la reine, devant une grande bibliothèque remplie de vieux livres en cuir rouge. Zizou avait appris la chute du soleil de fer ce matin-là, quand Alix était venu lui ouvrir sa prison donjon. Ça ne changeait rien pour lui, au fond. Il pouvait toujours se promener dans le château sans en sortir. Pour lui, les portes et fenêtres demeuraient fermées, plus que jamais. Puis Alix l'avait laissé en lui expliquant qu'elle devait assister à un conseil exceptionnel, un conseil méga important. « Le plus important de tous les temps, tu comprends ?» avait insisté la reine. Zizou comprenait, Zabi aussi.
« Tu m'étonnes !» cria-t-elle en l'entraînant en courant dans les couloirs. « Plus d'électricité ! Fini les écrans ! Fini les vidéos ! Fini tous les blablas de Mama Luna ! Ils vont devoir nous annoncer que les cours, les leçons, les devoirs, c'est terminé à tout jamais ! Alors, fais pas cette tête d'enterrement !»
« Il faut continuer les cours !» déclara Augenor. « C'est la priorité !»
Les cinq membres chargés des plus importantes décisions du château se tenaient dans la salle du conseil, assis devant la grande table en bois d'acajou, sous le sobre décor illustrant la justice rendue par les rois et leurs conseillers au fil des siècles. Alix était assise entre Augenor et Liu. Isalis et Jeanne d'Arc lui faisaient face.
« Qui pourrait oser prétendre le contraire ?»
répliqua Isalis en réajustant son chignon maintenu par trois crayons marrons.
Dans le pavillon des singes, Marie-Lune nous a laissé des placards entiers de livres, de cahiers, d'exercices. Nous en avons pour des années à tout étudier. Rien ne changera. On passera juste de l'écran au papier.
Isalis a raison, confirma Liu, ébouriffant ses cheveux noirs dressés en crête sur sa tête. Pour nous, les savants, la question des enseignements ne se pose même pas. Les cours continueront. Tout comme nous continuerons d'appliquer à la lettre chaque commandement de Marie-Lune.
Pourquoi nous a-t-elle abandonnés alors ? Demanda soudain Alix.
Elle ne nous a pas abandonnés, expliqua le délégué du pavillon des savants comme s'il parlait à une élève sous-douée.
Elle n'avait tout simplement pas le choix. Le soleil de fer était trop vieux. Sa durée de vie était de 12 ans. C'est sans doute déjà un exploit d'avoir pu inventer une énergie autonome qui dure aussi longtemps. Le temps que les adultes ont estimé minimal pour qu'on devienne des enfants responsables.
Un long silence s'installa dans la salle du conseil. Jeanne d'Arc, le seul délégué qui n'avait pas parlé, restait concentré, plissant son front inquiet sous les cheveux ras de sa tête de soldat. Enfin, Augenor s'exprima, se tournant vers le délégué des savants.
Concrètement, Liu, pour nous, qu'est-ce que la chute du soleil de fer va changer ?
Tous levèrent les yeux vers le magnifique et désormais inutile lustre de verre de la salle du conseil. Aucune ampoule ne brillait. Toute la clarté provenait du jour, par les fenêtres, et des chandeliers allumés aux quatre coins de la pièce. Liu baissa les yeux le premier avant de parler.
« En réalité, je crois que cela ne changera pas tant que ça notre quotidien. Même si on ne pouvait rien deviner, j'ai compris que les derniers cours de Marie-Lune étaient destinés à nous préparer. Par exemple, tous les élèves du pavillon des savants ont étudié pendant des semaines la vie à Paris au cours du 19e siècle avant que ne soit découverte la fée électricité. Nous maîtrisons les façons de faire du feu avec du bois ou du charbon ?» de nous éclairer avec des bougies, des chandelles de suif ou des lampes à huile. de conserver les aliments sans froid, dans la cendre, dans la graisse, ou en les enfumant et les séchant. Les hommes ont survécu des siècles sans problème, sans électricité. Les changements seront minimes, au fond. Marie-Lune avait sans doute volontairement limité l'accès à tout matériel électronique ou électrique. Il ne nous manquera que les écrans vidéo. Il hésita un peu, fixant Augénor. Et les ascenseurs? Augénor grimaça à cette allusion. Deux enfants soldats musclés, Idriss et Django, avaient dû le porter dans l'escalier jusqu'à l'étage de la salle du conseil. Et il devrait recommencer quand le conseil serait terminé. Augénor serait condamné pour se déplacer dans le château à se faire porter. Un vilain coup pour sa fierté, pensa Alix.
Le problème, conclut Liu, ne viendra pas de l'intérieur. Notre organisation restera strictement identique. Il viendra de l'extérieur.
De l'extérieur, répéta bêtement Alix.
Isalis la fixa comme un petit animal stupide.
« Oui, de l'extérieur !» explosa la déléguée. « Vous avez besoin qu'un singe vous fasse un dessin? C'est la magie du soleil de fer qui empêchait les sauvages de s'approcher du château. Les lasers? La mythologie? C'est un truc vieux comme le monde. Leur foutre la trouille avec deux ou trois petits tours de sorcellerie. Mais maintenant, mes chéris, on est sur un pied d'égalité avec les barbares. Et ils ne vont pas tarder à s'en apercevoir. » Surtout s'ils ont le cerveau un peu plus plein et le ventre un peu plus vide.
Alix repensa à sa dernière conversation avec Lunella la veille au soir avant de se coucher. Elle n'avait toujours aucune nouvelle de son jumeau, Solario, dans la forêt.
Rien d'inquiétant, selon la jumelle, ni de rassurant. Le calme blanc.
Perdue dans ses pensées, la reine ne remarqua pas que Jeanne d'Arc se penchait vers elle.
Majesté. Majesté.
Alix se reconcentra brusquement et fixa le délégué des soldats.
Oui?
Nous allons devoir nous défendre, Majesté.
Bien entendu, Jean,
répondit Alix en forçant son sourire. Vous, les enfants soldats, vous êtes là pour ça, entraînés à vous battre. Nous sommes tous d'accord.
Il nous faudra plus que des beaux, Majesté. Un nouveau long silence glaça la salle du conseil. Tous avaient compris ce que Jeanne d'Arc venait d'insinuer. Tous avaient compris qu'il faudrait voter.
« Hors de question !» répondit aussitôt Alix avec une conviction qui lui fit élever le ton. « Le premier commandement de Marie-Lune est clair. Pas d'armes. Pas d'autres armes que nos bâtons. »
Une voix partout. Alix n'osait imaginer que le conseil puisse désobéir au premier commandement et voter la fabrication d'armes nouvelles, pour blesser ou tuer.
« Nous contenter de nos bâtons ?» répliqua Isalis, avec au moins autant de conviction que sa souveraine. « Je n'ai jamais rien entendu d'aussi stupide. Toutes nos statues, tous les héros de nos tableaux portent des glaives, des arcs, des flèches, et nous savons parfaitement les fabriquer. Pourquoi s'en priver ? Les barbares, eux, ne s'en priveront pas. »
Alix trembla. Deux voix contre la sienne. Une seule de plus et une terrifiante course à l'armement s'enclencherait. Tous les regards se tournèrent vers Liu. Le délégué des savants réajusta ses lunettes sur le bout de son nez, puis frotta nerveusement sa crête ébouriffée.
« Le commandement de Marie-Lune, son commandement premier, est le fondement de tout. » Tous les cours de science et d'histoire ne sont destinés qu'à nous faire prendre conscience de sa signification. Les premiers hommes ont commencé par s'armer de gourdins, puis d'arcs, puis d'arbalètes au cours des siècles, puis de canons, puis de porte-avions, puis de bombes nucléaires. Nous avons tous appris cela. Personne même ne sait si le nuage toxique qui a ravagé l'humanité n'avait pas une origine militaire. Que ce soit clair,
il regarda longuement Isalis, puis plus longuement encore Jeanne d'Arc.
Jamais je ne mettrai la science et mes savants au service de la guerre.
Ouf, souffla Alix, de partout.
Restait Augénor.
Un étrange sourire s'afficha sur le visage du conseiller.
Nous perdons du temps pour rien,
déclara-t-il de sa voix toujours aussi calme. Du temps précieux. Désobéir au premier commandement de Marie-Lune reviendrait à remettre en cause tous les autres, toutes nos valeurs. C'est évidemment hors de question. Trois voix contre deux. La paix triomphait. Alix respirait.
Très bien,
dit Jeanne d'Arc en baissant la tête.
Il en sera ainsi, Majesté.
Isalis n'était pas aussi respectueuse du protocole.
Et vous croyez que Marie-Lune, il y a 6 ans, en enregistrant ces vidéos, avait prévu qu'une pluie de plumes tomberait sur le beau pavé de marbre de son sanctuaire? Que, comme les loups, la faim pousserait les enfants des rues à nous encercler? Que, contrairement à nous, ils n'auraient rien à perdre? Parce qu'au fond, ils ne sont que des bêtes affamées. Si nous ne trouverons pas d'autres inventions pour les effrayer, ils oublieront cette fichue peur qu'on leur a toujours collée, jusqu'à leur faire croire qu'on les mangeait tout cru.
Isalis se tut. Elle toucha machinalement les crayons dans ses cheveux, tout en regardant en face d'elle la flamme du chandelier danser. Elle repensait à cette peinture de la galerie des grands tableaux. Les Sabines.
Pour gagner une guerre, pensa la déléguée des singes, l'art est parfois plus efficace que les armes.
Tu vois quoi ?
Demanda Sabi.
Bah, rien, répondit Zizou.
Sabi tenait sa chandelle le plus haut possible afin d'éclairer les murs rouges dans la galerie des grands tableaux.
Rien ?
Non, rien, à part ce petit tableau de rien du tout.
Ok. Et tu te rappelles, le premier jour où tu es sorti de ta prison avec ta bosse sur le front ? C'est ici qu'on t'a expliqué les trois pavillons, avec Alix, sur ce banc-là.
Oui, évidemment.
Et tu ne vois rien de différent ?
Zizou réfléchit.
Il observa la gigantesque pièce, puis répondit, ignorant où Sabi voulait en venir. Le tableau était plus grand ?
Sabi explosa, énervé. Pas seulement plus grand, petit Cro-Magnon ! C'est pas le même ! C'était un tableau de guerre, pas le tableau d'une grand-mère couturière ! Il a été changé !
Et alors ? Soupira Zizou. C'est bien le changement, non ? Tu n'en as pas marre, toi, de ces vieux tableaux ?
C'est pas la question ! Isalis prétend que ce tableau, tu te souviens ? Les Sabines ! Les femmes qui posent leurs bébés entre les pieds des guerriers, n'a jamais existé ! Je ne suis pas folle ! Je te l'avais montré ! C'est donc qu'Isalis ment !
Pourquoi elle mentirait ?
Justement ! C'est ce que je voudrais bien savoir !
C'est rien qu'un tableau.
Non, c'est plus important. Beaucoup plus important, je le sens.
Zizou s'assit sur le banc.
À chacun ses regrets, Sabi. Toi, tu as perdu ton tableau préféré. Moi, mon rêve de médaille autour du cou. On s'accroche tous à ce qu'on peut. Au tipi, il y avait une fille, Crisante, qui parlait à sa poupée et...
Si tu m'aides pour le tableau, je t'aide pour les médailles.
Zizou sursauta. Comment ça? C'est quoi ton plan? Sabi posa sa chandelle, tira 2 lollipops de sa poche, garda la miel caramel et offrit la menthe carotte à Zizou.
Alix va me tuer, elle voulait te le dire elle-même, mais tant pis. Assieds-toi, mon petit Jesse.
Dans la salle du conseil, une nouvelle fois, ce fut Ogénor qui rompit le silence.
« La question des armes est réglée, Isalis, »
trancha le conseiller d'une voix calme qui ne souffrait aucune discussion.
« Nous avons voté contre leur utilisation. Il ne sert plus à rien d'en débattre. Mais une autre question se pose maintenant. Une question capitale de sécurité. »
Il marqua un temps d'arrêt, le temps de fixer les perles de verre grises du lustre éteint au plafond.
Je pense que nous devons annuler le tournoi de l'étoile. Sortir tous dans Paris pendant les épreuves et laisser le château vide serait désormais trop dangereux.
4 paires d'yeux se posèrent sur Ogénor, avec autant d'étonnement que s'il venait d'annoncer que les enfants devaient quitter le château pour aller habiter dans la forêt. La déléguée des singes fut la première à réagir.
Ce ne sera pas une grosse perte que d'en finir avec ce tournoi ridicule, approuva Isalis. De toute façon, ce sont les enfants soldats qui gagnent tous les ans.
Isalis fixa Alix droit dans les yeux avant de continuer.
Et on se demande parfois comment.
Liu toussa pour s'éclaircir la voix.
Ce n'est pas seulement un tournoi, commença le délégué des savants. C'est avant tout la fête des trois pavillons. Marie-Lune nous a fait apprendre l'histoire des Jeux Olympiques ou du cirque. Ils ont toujours existé. Les enfants ont besoin de s'amuser.
Nous ne sommes plus des enfants, Liu, trancha Augénor.
Jean d'Arc n'osa pas contredire frontalement le conseiller du château, mais il avait compris qu'une nouvelle fois, le conseil était partagé. Augénor et Isalis étaient favorables à la suppression du tournoi, Liu et lui à son maintien. La décision si importante se jouerait donc encore à une voix, et la reine détenait cette voix. Le délégué des soldats se tourna vers Alix, le regard suppliant.
« Majesté, argumenta-t-il, chaque pavillon a déjà désigné ses trois champions. 5 médailles pour 10 candidats. Vous nous avez interdit les armes, ne nous retirez pas le tournoi. Seule cette fête pourra nous aider à oublier la chute du soleil de fer. Le noir, le froid. »
Alix laissa planer un long suspense avant de prendre la parole. Elle était accrochée à son idée, bien décidée à surprendre ses 4 autres membres du conseil, pourtant tellement plus intelligents qu'elle.
Pourquoi tu m'appelles Jessie ? Demanda Zizou à Sabie.
Sabie haussa les épaules tout en levant les yeux au ciel vers la verrière sombre censée éclairer la pièce pendant les jours de soleil.
Décidément, t'es vraiment nul en histoire. T'as jamais entendu parler des Jeux Olympiques ? Et t'es encore plus nul en maths !
Il fallait que Sabie, la plus cancre de toutes les filles du château, soit bien sûre d'elle pour balancer une telle pique. Elle enfonça la lollipop dans sa bouche.
Toi, vois-toi !
Quoi ? Elle retira la sucette, puis se planta devant le mini-tableau de la vieille couturière, releva ses cheveux en chignon tout en prenant un air sévère. Zizou comprit qu'elle imitait Isalis.
3 x 3, clarifia Sabie. Ça fait quoi ?
Zizou hésita. Y avait-il un piège ?
9, pourquoi ?
Et depuis des semaines, petit malin, depuis la cérémonie d'ouverture, on te rabâche qu'il y a combien de candidats pour le tournoi de l'étoile ? 10, mon petit chéri. 10, comme les 10 doigts de la main.
Le tournoi de l'étoile aura lieu, annonça Alix avec autorité, sachant que sa décision lui donnait la majorité.
Comme prévu, on ne changera rien.
La luminosité faiblissait dans la salle du conseil. Des nuages plus épais venaient sans doute de passer devant le soleil. Sans électricité, le château allait devoir vivre bien davantage qu'avant au rythme des caprices de la nature. Isalis soupira. Liu respira. Augénor resta impassible. Jean d'Arc, le plus soulagé de tous, se tourna vers la reine. Il inclina la tête en signe de respect.
« Majesté, en tant que souveraine, vous savez que vous ne pourrez participer au tournoi cette année, mais vous continuez d'appartenir au pavillon des soldats. Vous avez remporté pour notre pavillon 3 médailles l'an dernier. Si, parmi mes soldats, vous voulez que je vous aide à faire un choix pour le 10e candidat,
mon choix est déjà fait, Jean. »
Le délégué des soldats redressa la tête, surpris, tout comme les 4 autres membres du conseil.
« Et votre Altesse, continua Jean d'Arc, puis-je savoir qui sera votre champion ? Son nom ? Ou au moins, à quel pavillon il appartient ? » ?»«
Il n'appartient à aucun pavillon. »
Les 3 délégués se regardèrent, consternés. Par tradition, c'était à la reine ou au roi de désigner chaque année le 10e candidat, son champion. Le seul enfant du château à n'appartenir à aucun pavillon était Augénor. Les 3 délégués imaginaient mal le conseiller de la reine participer à des courses de vitesse ou d'acrobatie sur son fauteuil roulant. Augénor, pourtant, semblait avoir déjà compris et afficha un petit sourire juste avant qu'Alix ne déclare solennellement
« Mon champion pour le tournoi de l'étoile sera Zizomis. »
Iso exécutait des sauts de cabri dans la galerie des poussières, dansant, chantant, criant de joie.
Alix voulait te faire la surprise, lui expliquait Sabi. Elle aurait pu te raconter avant cette histoire de 10e champion, mais la tradition veut que la reine le désigne lors du conseil qui suit la veillée du sanctuaire. Elle t'avait choisi depuis le début, tu sais, même quand tu maniais encore ton beau comme un manche.
Zizo effectua une spectaculaire glissade sur le parquet ciré, s'étala en riant. On aurait dit un enfant de 3 ans à qui on annonce qu'il va faire un tour au parc dans sa poussette. Sabi, tout en suçant sa lollipop, le trouvait tellement gamin. Comme tous les autres garçons? Était-ce une malédiction chez eux de vouloir toujours être celui qui fait pipi le plus loin? Gagner, gagner, gagner. Qu'est-ce que cet esprit de compétition l'agaçait? Elle interpella Zizo d'une voix navrée.
Cette cavalier après une médaille qui te met dans un tel état? Moi qui croyais que si on devait construire un nouveau monde, c'était l'occasion pour les filles d'en finir avec tous ces trucs débiles de garçons, courir en rond dans un stade comme un hamster, taper dans un ballon, crier dans une tribune.
Zizo ne l'écoutait pas. Il grimpa sur le banc à côté de Sabi, comme s'il se hissait sur la plus haute marche d'un podium, la main sur le cœur, le cou penché par le poids d'une médaille invisible.
Arrête ton cinéma, microbe! Je te préviens! Tu seras peut-être le chevalier de ma copine la reine, qui d'ailleurs ne sera plus reine dans quelques mois. Mais compte pas sur moi pour t'encourager. Moi, mon chouchou, ce sera Novak, le plus beau de tous les gars du pavillon des soldats. Tu sais, celui qui t'adore depuis qu'il a failli devenir borgne à cause de toi. Allez, je t'en veux pas, mon Cro-Magnon. On arrose ça?
Dessous le banc, derrière un carton de lollipops, Sabi sortit un petit tonneau rempli d'un liquide rouge foncé. Zizo reconnut le jus de raisin un peu trop fermenté que les enfants du château buvaient parfois en cachette des délégués.